en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Bonjour, il y a quelques 60 000 ans, l'homme quittait l'Afrique pour coloniser les différentes régions du globe. Il s'adapta au cours de ses voyages et des années aux changements climatiques, nutritionnels et pathogéniques. L'hypothèse à vérifier était donc la suivante pour notre intervenant Luis Barrero. La diversité phénotypique observée dans les populations humaines actuelles résulterait de processus de sélection naturelle et d'adaptation locale. Pour valider cette théorie, Luis Barrero, jeune chercheur à l'Institut Pasteur, a analysé le degré de différenciation entre populations pour près de 3 millions de sites polymorphes dans le génome. Et son hypothèse était bien la bonne. Effectivement, certains gènes sont impliqués dans des différences physiques telles que la pigmentation de la peau, l'épaisseur des cheveux, et également interviennent dans les relations hôtes pathogènes comme ceux impliqués dans la sévérité des attaques de paludisme, dont une mutation est retrouvée chez 85% des Africains, mais est pratiquement absente chez les Européens et les Asiatiques. Enfin, d'autres gènes sont associés à des maladies pour lesquelles le taux de prévalence peut varier entre les populations. Il s'agit du diabète, de l'obésité ou de l'hypertension. L'étude menée par l'unité de génétique évolutive humaine à l'Institut Pasteur indique clairement que la sélection naturelle a guidé les processus de différenciation des populations chez l'homme moderne. Luis Barrero, chercheur travaillant dans cette unité en compagnie du directeur Luis Quintena Morchi, développe dans sa communication les détails de cette sélection naturelle dans le génome humain. Précisons que cette séance de l'Académie des sciences était consacrée aux grandes avancées biologiques françaises. Elle avait lieu en juin 2008. On écoute Luis Barrero.
L'analyse et la mieux compréhension de la diversité du génome humain peuvent être vues comme un outil très puissant pour mieux comprendre l'évolution de notre espèce. Alors aujourd'hui, on sait que l'homme moderne s'est originé en Afrique, elle a à peu près 150 ou 100 000 ans, et plus récemment, elle a environ 70 000 ans, l'homme moderne a quitté l'Afrique pour coloniser le reste du globe. Pendant ce processus de colonisation du globe, en fait, l'homme moderne il a dû faire face à des différentes pressions sélectives, par exemple différents environnements climatiques, des différents environnements nutritionnels, et aussi bien à des différentes pressions sélectives imposées par différents pathogènes. Alors, la théorie évolutive, elle postule qu'en fait, quand ces populations elles ont dû faire face à ces nouveaux environnements, les variants génétiques qu'on conférait en avantage sélectif, elles ont été sélectionnées dans ces différentes populations. Alors nous, on a voulu tester cette hypothèse biologique à l'échelle du génome. Alors on s'est posé la question, la suivante question, c'est dans quelle mesure la sélection naturelle a-t-elle influencé la différenciation génétique des populations humaines ? Autrement dit, est-ce que nos différences morphologiques, les différentes façons comment on répond aux pathogènes, la différente façon comment on répond à certains traitements thérapeutiques, sont-elles les résultats de hasard ou sont-elles dues à des événements de sélection naturelle ? Et dans le cadre où ces différences sont expliquées, en tout cas en partie, par des événements de sélection naturelle, sont-elles les gènes et les variants génétiques qui ont été préférentiellement ciblés par la sélection ? Alors, pour répondre à cette question, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré les distances génétiques entre différentes populations humaines. Alors ça, on l'a fait à l'aide d'une statistique qu'on appelle FST. Alors tout d'abord, pour clarifier, parce que c'est quand même la base de toute ma présentation aujourd'hui, alors c'est important qu'on comprenne un peu, c'est-à-dire que cette FST, en fait, c'est une statistique pour laquelle la valeur varie entre 0 et 1. C'est-à-dire que si vous avez un polymorphisme qui est présent à 5% de fréquence chez les Européens et à 5% de fréquence chez les Africains, là, on part d'une distance génétique nulle. C'est-à-dire que l'FST va être égal à 0. Alors, au contraire, si vous avez un polymorphisme qui existe à 0% de fréquence chez les Européens et à 100% de fréquence chez les Africains, là, on parle d'une distance génétique maximale, FST va être égal à 1. Alors, c'est quoi les valeurs de distance génétique qu'on s'attend sur un modèle de neutralité ? En fait, c'est-à-dire que la différenciation des populations, elle peut commencer qu'à partir du moment qu'il a un split, c'est-à-dire qu'il a la formation de deux nouveaux groupes. Alors, par exemple, ici, considérons cet exemple ici, où on a une population ancestrale qui était en Afrique il y a 70 000 ans, et que vous avez un polymorphisme ici représenté en rouge qui est présent à une fréquence donnée. Alors, à partir du moment qu'il a la séparation de cette population en deux groupes indépendants, que vont originer ce qu'aujourd'hui on appelle les Africains d'un côté et les Européens de l'autre, ce qui va se passer, c'est qu'au cours des générations, il va avoir une fluctuation aléatoire de la fréquence de cet allèle en rouge, Et ce qu'on observe aujourd'hui dans le génome, c'est que le taux de différenciation des populations humaines actuelles, il est extrêmement bas. En moyenne, il est de 0,12. Alors, comment est-ce qu'en utilisant ces mesures de distance génétique, comment est-ce qu'on va pouvoir identifier des événements de sélection naturelle? Alors, tout d'abord, je voudrais rappeler quels sont les différents types de sélection naturelle qu'on peut trouver dans le génome. Alors, on a tout d'abord ce qu'on appelle la sélection positive. Alors, dans cet exemple ici, vous avez ici une mutation en rouge. Et vous pouvez imaginer que cette mutation en rouge, elle confère un avantage sélectif. Imaginons que cette mutation vous protège vis-à-vis de malaria, du paludisme. Alors, comme cette mutation vous confère un avantage sélectif, au cours des générations, elle aura la tendance à augmenter en fréquence jusqu'au moment qu'elle peut devenir fixée dans la population. C'est ça qu'on appelle la sélection positive. Après, dans le pôle opposé, on a ce qu'on appelle la sélection négative. Alors ça, c'est le type, le mode de sélection le plus fréquemment trouvé dans le génome. C'est le cas où vous avez des mutations ici en noir qui sont délétères, c'est-à-dire des mutations qui vont par exemple changer l'activité de la protéine d'une façon délétère. Elles auront la tendance à disparaître de la population au cours des générations. Et finalement, on a ce qu'on appelle la sélection balancée. C'est un cas particulier où là, l'avantage, ce n'est pas avoir qu'un allèle, le rouge par exemple, mais ça serait par exemple d'être hétérozygote pour l'allèle rouge et l'allèle jaune. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ces deux allèles, ils vont les deux augmenter en fréquence dans la population, ils vont être maintenus dans la population à des fréquences intermédiaires. Alors, comment ces différents types de sélection vont-ils affecter, influencer les distances génétiques entre les populations par rapport à un modèle de neutralité de pure dérive génétique? Alors là, nous avons par exemple le cas de la sélection positive, que c'est un mode de sélection qui aura la tendance à augmenter les distances génétiques entre les populations. Alors pourquoi? Revenons sur notre exemple. Vous avez les deux populations, l'africaine et la population européenne. Mais cette fois-ci, la petite différence, c'est que la population africaine, particulièrement, elle est soumise à une pression sélective, par exemple, imposée par le paludisme. Alors, dans ces cas-là, si par exemple, il existe une mutation qui apparaît dans cette population qui protège vis-à-vis du paludisme, cette mutation aura la tendance à augmenter en fréquence spécifiquement dans cette population au cours des générations, ce qui va faire que les distances génétiques vont être très importantes entre les Africains et les Européens pour cet polymorphisme en particulier. Vous voyez ici que tout le monde ici est devenu rouge, alors que de l'autre côté, tout le monde est bleu, parce que cette mutation n'a pas été sélectionnée chez les Européens, car il n'existait pas cette pression sélective. Au contraire, la sélection négative et balancée, elle aura la tendance à diminuer les valeurs des FST, des distances génétiques. Alors pourquoi? Dans le cas de la sélection négative, comme je vous ai dit, c'est le cas où vous avez des mutations ici en rouge qui peuvent être délétères. Sachant que ces mutations sont délétères, la sélection négative aura la tendance à les maintenir à des fréquences très faibles dans les populations. Sachant ça, c'est impossible qu'elles se différencient beaucoup entre les populations. Car elles sont délétères, elles n'augmentent jamais en fréquence, et les différences de fréquence pour ces allèles vont être toujours très petites. Au contraire, la sélection balancée, je vous ai dit qu'elle va normalement faire de façon à que les allèles soient gardés à des fréquences intermédiaires dans toutes les populations. Sachant ça, comme les fréquences vont être pareilles partout, encore une fois, les valeurs des distances génétiques vont être réduites. Alors, ce qu'on a fait, c'était alors de mesurer ces distances génétiques pour environ 3 millions de SNPs qui ont été génotypés par le consortium HapMap dans 4 populations humaines. Alors, les populations, c'est une population de Yoruba du Nigeria, qui représente le groupe africain, une population d'origine de l'Europe du Nord, et deux populations asiatiques, un groupe des Chinois et un groupe des Japonais. Alors, le côté, si vous voulez, innovateur de ces travaux, c'est qu'on n'a pas tout simplement estimé ces distances génétiques pour les 3 millions de SNP, mais en plus, on a tagué chaque SNP comme étant tout d'abord génique ou non génique, c'est-à-dire est-ce que le SNP est localisé dans un gène ou hors d'un gène, et parmi celles qui étaient classifiées comme géniques, on les a encore classifiées comme étant synonymes, c'est-à-dire qu'ils se trouvent dans un exon mais ne vont pas changer l'aminoacide. Non synonymes sont celles qui vont changer l'aminoacide, c'est-à-dire la protéine. intronique dans des introns, dans des régions 5' régulatrices ou 3' régulatrices. Alors l'hypothèse de base, l'hypothèse sur neutralité, c'est que s'il n'a pas de la sélection, il n'a aucune raison pour que la proportion de SNP hautement ou faiblement différenciée soit différente entre les différentes classes de polymorphisme. C'est-à-dire que si, par exemple, on observe que les mutations qui changent les aminoacides sont enrichies par des polymorphismes qui sont hautement différenciés, ça serait une évidence très forte que la sélection positive a agi particulièrement sur cette classe de variants génétiques. Alors, ce qu'on a fait, alors, c'était de comparer la distribution des distances génétiques pour toutes ces différentes classes de SNP. Et notre première observation, c'était de voir qu'il avait des remarquables différences dans la proportion de polymorphismes que présentaient des distances génétiques très faibles entre les différentes classes. Ici, c'est une autre façon de voir, c'est-à-dire qu'ici, en fait, je plotte la proportion de polymorphismes qui présente des valeurs de FST, de distance génétique inférieure à 0,05, c'est une valeur très faible. Je vous rappelle que ça varie entre 0 et 1, c'est-à-dire que ça, c'est très faible. Et ici, en fait, on fait la comparaison entre toutes les classes par rapport à la classe de polymorphisme non génique qu'on considère que c'est notre attente sur neutralité. Alors ici, on voit clairement que les mutations géniques sont enrichies par des polymorphismes présents des distances génétiques très faibles et que cet enrichissement il est plus particulièrement évident pour les mutations non synonymes, celles qui changent les aminoacides. Alors ça, qu'est-ce que ça peut dire? C'est peut-être qu'en fait, il aurait de la sélection négative agissant sur les mutations qui changent les aminoacides. C'est-à-dire que certaines de ces mutations, elles sont délétères, alors elles sont contraintes par la sélection négative à augmenter en fréquence et à se différencier entre les populations. Alors, pour tester cette hypothèse, ce qu'on a fait par la suite, c'était de prédire le rôle fonctionnel de chacune de ces mutations non synonymes. Il y avait environ 16 000 mutations non synonymes qu'on avait analysées. Et pour chacune de ces 16 000 mutations, on a prédit son rôle fonctionnel. On ne pouvait pas y tester fonctionnellement, comme vous pouvez imaginer. On a utilisé des algorithmes que nous ont permis de classer chacune des mutations comme étant soit bénigne, c'est-à-dire que même si elle change l'aminoacide, normalement, ça ne va pas avoir une conséquence au niveau de l'activité de la protéine, comme étant possiblement délétère ou probablement délétère. Alors, si c'était vrai que cette image ici, cet excès de polymorphisme faiblement différencié était dû à la sélection négative, on s'attendrait que les mutations considérées délétères devraient montrer encore plus de polymorphisme faiblement différencié que des mutations considérées bénignes. Alors, c'est exactement ça qu'on a pu observer. En fait, les mutations considérées possiblement ou probablement délétères présenter une proportion plus importante de polymorphisme présentant de distances génétiques très faibles par rapport à des mutations considérées bénignes qui, a priori, ne vont pas changer l'activité de la protéine. Et cette augmentation, on a pu montrer qu'elle était due au fait qu'effectivement, la sélection négative a la tendance à garder la fréquence de ces mutations délétères plus faible par rapport à des mutations qui n'ont peut-être pas des conséquences au niveau du fitness de la population et des individus. Alors, dans cette première partie de l'étude, on a pu montrer qu'effectivement, dans le génome, il existe des mutations qui sont contrôlées, que leur fréquence est contrôlée par l'action de la sélection négative. Autrement dit, ce sont des mutations et des polymorphismes qui certainement jouent un rôle aujourd'hui dans la susceptibilité à certaines maladies. Sinon, la sélection négative n'aurait pas à agir sur ces mutations-là. Alors, dans la deuxième partie de l'étude, on s'est intéressé à cette côté de la distribution, c'est-à-dire des polymorphismes qui sont hautement différenciés entre les populations. Alors, là, notre première observation, c'était de voir qu'en fait, les polymorphismes localisés dans les gènes, les géniques, présentaient plus de polymorphismes avec des distances génétiques très importantes. Ici, vous voyez, ça, c'est la proportion des SNP considérés géniques et non géniques. Et vous voyez clairement qu'au fur et à mesure qu'on commence à augmenter les distances génétiques, on commence à avoir un enrichissement des polymorphismes géniques dans notre jeu de données. Alors là, c'était la première évidence qu'en effet, la sélection positive était en train de moduler la diversité de nos régions géniques, de nos gènes. Et après, quand on voit les différentes classes, on voit effectivement que quand on regarde la proportion de polymorphisme présentant des valeurs de distance génétique supérieures à 0,65, c'est extrêmement élevé. On parle des cas où vous avez des polymorphismes à 60% dans une population et inexistants dans une autre. Ce sont des cas très, très rares. Vous voyez ici que l'échelle est extrêmement petite. C'est 0,15% en moyenne. Et vous voyez clairement qu'effectivement, dans les gènes, on a beaucoup plus de polymorphismes présentant ces distances génétiques très fortes et que cette augmentation, elle est plus particulièrement évidente dans les mutations localisées dans les régions 5' promotrices et dans les mutations non synonymes, celles qui changent les aminoacides. Alors là, avec cette étude, en fait, après, on a pu en fait identifier plus de 500 gènes que présentaient des signatures compatibles avec une sélection positive, c'est-à-dire que présentaient des polymorphismes, que présentaient des distances génétiques très importantes entre les différentes populations. Et ici, dans ce tableau, je donne une liste très conservative avec les gènes qui montraient les signaux plus importants. Alors, c'est fort intéressant de remarquer que parmi ces gènes ici, il existe plusieurs gènes impliqués dans des traits morphologiques, comme par exemple la pigmentation de la peau ou la forme des cheveux. Il existe aussi plusieurs gènes impliqués dans la réponse immune vis-à-vis des pathogènes, des gènes impliqués dans le syndrome qu'on appelle le syndrome métabolique, qui inclut par exemple le syndrome comme l'obésité, les diabètes ou l'hypertension. Et en fait, là, par exemple, je vous donne un exemple, on a trouvé un gène CR1, CR1 c'est un gène de complément, que chez les papous, a été montré que des variations dans ces gènes-là étaient impliquées dans une sévérité différentielle au paludisme. Alors nous, on a pu mettre en lumière un polymorphisme qui change l'aminoacide dans ces gènes, qui existe en 85% des Africains et qu'il est absent dans toutes les autres populations. Alors on peut bien imaginer que ce polymorphisme à l'état dérivé qu'on a trouvé là, à l'état dérivé chez les Africains, il a augmenté aussi fortement en fréquence chez les Africains car il doit protéger vis-à-vis du paludisme. Alors, aussi bien, c'est Louise, dans son introduction, il a dit que en fait, on peut utiliser l'approche évolutive aussi pour essayer d'identifier des gènes et des variants génétiques qui aujourd'hui sont impliqués dans la susceptibilité à différentes maladies. Alors, je pense que cette étude a notamment validé cette hypothèse-là, car en fait, quand on regarde, on voit que les polymorphismes présentant des signatures compatibles avec la sélection négative, c'est-à-dire très faiblement différenciés, ou des polymorphismes présentant des signatures de sélection positive, autrement dit très fortement différenciés, ils sont plus fréquemment trouvés dans des gènes déjà impliqués comme étant impliqués dans des maladies que les autres polymorphismes. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'on a pu montrer avec cette étude? C'est qu'en fait, même si la divergence des populations humaines était très récente, on parle de 60 000 ans de divergence, la sélection naturelle, elle a été une force qui a significativement participé à la différenciation des populations actuelles. D'un côté, la sélection négative, elle a empêché la différenciation génétique des populations au niveau des variants qui changent les aminoacides, car ces changements doivent être délétères jusqu'à une certaine mesure, et plus particulièrement dans les gènes impliqués dans des maladies. Dans le pôle opposé, on a pu voir qu'en fait la sélection positive, elle a augmenté la différenciation des populations dans certaines régions géniques et plus particulièrement au niveau des variants non synonymes et des variants localisés dans les régions promotrices, 5' promotrices. Alors, cette étude nous a aussi également permis d'identifier un groupe de gènes qui a contribué à la diversité phénotypique des populations humaines d'aujourd'hui. Alors, pour terminer, j'aimerais remercier tous les membres de l'équipe de génétique évolutive humaine de l'Institut Pasteur, et plus particulièrement Luis Quintana Morsi, Guillaume Laval, Hélène Quach et Étienne Patin qui ont activement participé à cette étude, aussi bien que tous les collaborateurs que nous avons et les différents organismes que financent nos études. Et à vous de m'avoir écouté. Merci beaucoup.
Vous venez d'entendre Louise Barrero de l'unité de génétique évolutive humaine à l'Institut Pasteur. Il était invité à présenter ses travaux à l'Académie des sciences lors d'une séance en juin 2008 consacrée aux grandes avancées françaises en biologie. Il revenait sur la sélection naturelle dans le génome humain. Pour en savoir plus sur les travaux de Louise Barrero et de l'ensemble de l'équipe de génétique évolutive humaine, connectez-vous au site de l'Institut Pasteur au www.pasteur.fr. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles séances sur Canal Académie.